J'éprouvais face à la musique classique qu'écoutait mon père ce qu'il devait éprouver face à ce que j'écoutais. Chacun pensait de la musique de l'autre qu'elle était trop prévisible. J'avais le sentiment que quand on entendait le début d'une phrase de Mozart, on pouvait deviner la fin. Alors que j'aimais la surprise qu'il pouvait y avoir, même dans une musique apparemment très répétitive. Rodolphe Burger, ce soir notre invité, à l'occasion de son film « Good » et de son concert présenté actuellement en ce moment même au Centre Pompidou dans le cadre du cinéma du réel. Mais comme chaque soir, on va commencer en musique et avec vous.
Servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. De ci, nuit de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony.
Mais quoi, entre le murmure et le chant, entre la mélodie et la scénarisation d'une histoire, nous sommes toujours invités, et ce depuis quelques décennies, Rodolphe Burger, grâce à vous, à partir dans tous les sens du terme. partir par le son, c'est ce qui vous caractérise. Mais je voudrais qu'on parte d'une photographie que j'ai sous les yeux. Vous aviez 11 ans et vous étiez à la section bûcheronnage de la fête du collège technique de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est une petite ville d'Alsace où vous avez vécu toute votre enfance. Et vous avez une guitare entre les mains. Que se passe-t-il à ce moment-là ?
Il se passe que, sans doute, quelque chose de mon destin se joue. C'est 1968, il faut le rappeler, donc une année où on peut se croire tout permis, même quand on a 11 ans. C'est-à-dire, par exemple, là, en l'occurrence, faire un concert alors qu'on sait à peine jouer. Je venais d'acheter cette guitare je me souviens de la terreur dans laquelle je me trouvais au moment où j'ai commandé la guitare. On est allé à Strasbourg avec un ami, on a craqué, quoi, on a dit. On est rentré, on a commandé des guitares et après on était mais mortifiés. Parce qu'on dit, comment ? On avait 11 ans. Comment on va payer cette guitare ? Mais c'était irrésistible, bon, et de même a été irrésistible, voilà, tout le fait d'aller voir, le collège technique de la petite ville, de leur proposer d'animer la fête de la section bûcheronnage et de venir avec des choses qu'on proposait comme des compositions. Même si, à l'époque, ce qui est devenu une petite tube locale était inspiré de la musique de Babar. Pom-pom, 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 pom-pom. C'était facile à jouer en plus. On était parti de cette petite mélodie, on en avait fait un rock instrumental qui est devenu le tube local de notre groupe.
Et le son de cette guitare vous était parvenu pour les premières fois par la radio. Quelle importance revêtait la radio au moment de votre enfance ?
Une importance fondamentale. Ça a été le cas pour, pas seulement ma génération, mais Bachung parlait de ça beaucoup. Hein. C'est ce qui a forgé complètement son oreille musicale. C'est la radio, pour lui et pour moi d'ailleurs, les mêmes radios. C'était ces fameuses radios américaines qui diffusait depuis l'Allemagne, depuis les bases américaines en Allemagne. Donc un rock'n'roll, c'était Cochrane, Gene Vincent, mais aussi la country. Et pour d'autres, on a échangé à ce propos avec Mishka Assayas, qui lui était à Reims et qui disait qu'il écoutait, ou au Havre, il écoutait les radios anglaises ou les radios RTL aussi, qui a joué un grand rôle. Enfin voilà, toute mon éducation musicale vient de la radio, absolument. Et donc je voue un amour particulier pour la radio.
Votre éducation musicale, Rodolphe Burger, ne vient pas entièrement de la radio. Elle vient aussi du fait que vous avez beaucoup fréquenté les églises. Et là, vous avez entendu de la musique dans les églises. N'oubliez pas que vous avez été enfant de cœur.
Oui, enfin, enfant de cœur, je suis protestant. Il n'y avait pas l'enfant de cœur, j'étais protestant. J'ai entendu, c'est vrai, peut-être que ça a joué, il faut bien que je l'avoue, j'ai entendu cette musique... Ce bac un peu simplifié qui a servi à faire les cahiers de chant, les cantiques qu'on chante dans les cultes calvinistes. Le son de l'orgue probablement aussi. Mais donc ça a peut-être joué, mais quand même, c'est indiscutablement tout d'un coup ce son électrique là qui est arrivé par la radio, qui venait d'ailleurs et qui a été le premier phénomène sans doute de la mondialisation, on peut dire. C'est tout d'un coup quelque chose, un phénomène mondial, quoi. Une musique qui se répand dans le monde entier. Je raconte souvent cette chose qui m'avait beaucoup frappé. Au début des années 80, j'étais allé à New York et je m'étais trouvé chez une amie qui était en couple avec un portoricain de mon âge, exactement. Donc, elle avait vécu toute son enfance. C'était dans le North Manhattan, encore plus haut que Harlem. Et il m'avait montré ses disques, sa collection de disques, c'était exactement les mêmes disques qu'on écoutait. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, au fond.
L'idée d'une communauté invisible, mystérieuse, mais qui éprouve le même désir d'écoute d'un son. Alors justement, vous êtes devenu philosophe, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez dirigé des séminaires de philosophie sur la musique, notamment à Strasbourg. Et vous avez essayé de comprendre ce que veut dire le son. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le son ?
C'est une très grosse question. C'est-à-dire, en effet, on peut partir de ça, de se dire que, enfin, en tout cas dans mon expérience, qui a été celle aussi de de toute une génération. Le phénomène du rock est plus plutôt s'analyser comme un phénomène de son que comme un phénomène proprement musical. Donc il y a quelque chose dans le son qui parle. Alors qu'est-ce qui parle dans le son? Bon, il faut se le demander, mais je dirais il y a presque quelque chose d'immédiatement sensible, mais d'immédiatement politique. Un son est immédiatement trimballe avec lui un monde, connote un monde. Par exemple, c'est tout à fait extraordinaire qu'un groupe comme le Velvet Underground, qui était très peu connu de son temps, qui n'était pas du tout un groupe engagé ou politique, ait pu devenir ce groupe si important politiquement à un moment donné. On sait par Václav Havel que c'est la révolution de velours s'appelle révolution de velours à cause du Velvet Underground. Et ça, c'est pas les paroles du Velvet Underground, c'est le son du Velvet Underground, qui en lui-même était porteur de quelque chose qui était inspirant, qui inspirait un désir de liberté, ça c'est certain. Mais voilà, que le son puisse avoir un impact tel, au-delà même du sens, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si ça s'explique, mais en tout cas, c'est fascinant.
C'est une aura, c'est une trace magique, pour reprendre des concepts qu'a essayé de développer Walter Benjamin dans ses écrits. Qu'est-ce que ce son et pourquoi est-il l'ADN d'une génération?
C'est vrai que, sans doute, ça a été un moment dont on peut avoir de la nostalgie, mais faut-il avoir la nostalgie de ça? C'est-à-dire, puisque ça a été un moment de coïncidence qui se reproduira peut-être plus jamais entre une musique de masse et une proposition artistique neuve, d'une créativité folle. Si on regarde ce qui a été produit dans ces années fin 60-70, c'est absolument inouï. On vit à 80% sur le... On ne cesse de ressasser, recycler, reprendre, réécouter tout ce qui a émergé à ce moment-là. Et il se trouve qu'en même temps, c'était massivement diffusé. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. On n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, la très bonne musique est redevenue underground, pour l'essentiel.
Vous êtes-vous beaucoup bataillé à la fin de votre enfance, Rodolphe Burger, pour parvenir à vos fins, c'est-à-dire continuer à jouer de la guitare et essayer de créer un nouveau son, sachant que votre père était un grand amoureux de musique, mais de musique classique, et que, comme certains parents désireux de bien, entre guillemets, élever leurs enfants, ils vous avaient un peu imposé le son de cette musique classique.
Imposé, c'est peut-être un peu fort, il n'y avait pas de...
Un bain de musique.
Mais en tout cas, oui, on baignait dans cette musique. C'est-à-dire la musique qu'il écoutait. Et puis aussi, j'étais un peu tenu quand même d'assister à des concerts de musique de chambre. Et quand même, donc pour la plupart, je dois avouer vraiment que je m'ennuyais à mourir à ces concerts. Sauf une fois, j'ai vraiment un souvenir très précis d'un concert. C'était la Sonate à Kreutzer de Beethoven. Comme on sait, il y a un passage où il est prescrit aux musiciens, aux violonistes, d'improviser. Et là, je me souviens de ce violoniste qui s'est mis à improviser et qui est devenu une sorte de Jimi Hendrix du violon, quoi. C'est-à-dire là, soudain, j'ai compris que même dans cette musique-là, il pouvait y avoir un investissement, une incarnation du même type que cette musique que j'écoutais. Et avec mon père, ça a été quand même un chemin assez beau, parce que c'est vrai qu'il a absolument pas compris il est passé. Enfin voilà, il y avait même une répulsion, je pense, pour lui, dans cette musique rock que j'écoutais. Et bien après, avec mon groupe Catonoma, j'ai un souvenir vraiment magnifique d'un moment où on enregistrait un quatuor à cordes, précisément, dans une petite église de Sainte-Marie-aux-Mines, et où il est venu assister à l'enregistrement. Et là, il y avait vraiment incontestablement une sorte de... Enfin, des retrouvailles, du côté du son.
Et plus que cela, peut-être, parce que dans votre itinéraire, Rodolphe Burger, vous avez quitté Sainte-Marie-les-Mines, vous êtes parti ailleurs, vous avez trouvé un autre chemin de professeur de philosophie. Et puis, je crois savoir qu'après la mort de votre père, vous êtes venu de nouveau dans votre village natal. Et là, après la disparition de ce père, vous avez redonné de la vie, grâce à la musique, à une communauté villageoise.
Oui, c'est vrai ça n'a été possible pour moi qu'après, ou plus justement, il est dans le fait de proposer à Sainte-Marie-aux-Mines, dans cette ville natale, dans ma ville natale, un festival qui dure toujours. Je l'ai proposé précisément à cet endroit-là, dans cette église. Mon père est enterré juste devant. J'ai proposé à ma mère d'être au centre du festival pour ce qui est de la logistique. Donc il y a eu un geste, en effet, très certainement lié, oui, à la disparition de mon père.
Je vous propose d'écouter la voix de Serge Gainsbourg qui va dire son initiation totale et inconsciente à la musique classique dès sa naissance, car on le sait, son père était musicien. C'est une archive INA du 18 décembre 1986.
J'ai été initié aux arts majeurs à l'âge de 13 ans, j'ai commencé la peinture. Puis un peu, je suis passé en archi. Je suis revenu à la peinture pour passer ensuite au piano. Je pense que j'ai été initié à la musique classique dans les premiers mois de ma naissance. Car mon père, qui était pianiste de Var, petit émigré russe, pour gagner sa vie, était dans les cabarets. Cabaret, piano bar, etc. Mais pour son plaisir, chaque jour de sa vie, il jouait du Scarlatti, du Ravel, du Debussy, Cole Porter, Gershwin, Bach. Et toutes ces pulsions esthétiques que je recevais chaque jour de ma première enfance jusqu'au jour de ma première adolescence, bon, c'était bénéfique, je pense. C'est-à-dire, c'est une initiation totale et inconsciente.
Alors évidemment, on peut vous comparer à Serge Gainsbourg, on va en parler de cette manière dont vous utilisez et déployez votre propre voix à l'intérieur de vos propres partitions musicales, Rodolphe Burger. Mais en dehors de cela, de votre parenté, de votre compagnonnage avec Serge Gainsbourg, il y a aussi cette espèce de croyance que la musique, elle appartient au corps, au plus profond de l'intériorité du corps.
Oui, ça c'est lié aussi, je pense, à ma pratique de la guitare. C'est-à-dire que je n'imagine pas tellement me retrouver dans la position du chanteur, quoi. Chanter sans guitare, c'est quasi... ou sans un instrument quelconque, ça me paraît inconcevable, en effet.
Vous n'êtes pas chanteur.
Du coup, voilà, je ne dirais pas que je suis chanteur. D'ailleurs, je ne chante jamais en dehors d'une situation, soit de diffusion, d'enregistrement, d'adresse, et toujours avec un instrument.
Donc vous oubliez votre corps au moment où la guitare prend le dessus sur votre conscient.
Absolument.
C'est et vous juste. Êtes embarqué.
Voilà. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je compare. Je pense qu'on peut comparer la guitare au cheval, hein, par exemple. Enfin,
ben vous avez fait un morceau célèbre avec Olivier Cadieux, ouais, qui s'appelle Cheval Mouvement.
Cheval Mouvement, absolument. Et Cheval Mouvement, ça dit quelque chose de la guitare. Je pense. Ensuite, la guitare électrique, ce serait plutôt la moto, par exemple. Enfin, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose qu'on... c'est une monture, et c'est quelque chose qui fait voyager, qui met en mouvement.
Mais alors, vous êtes où dans ces moments? Vous êtes embarqué par autre chose que par vous-même?
Ben, je suis sur ma monture, comme un enfant, comme ça, qui joue à être cow-boy ou indien. Il y a quelque chose comme ça.
Et en même temps, vous êtes un créateur de sons, de textes, même si vous avez des compagnons poètes qui vous accompagnent depuis extrêmement longtemps. Et vous dites que vous êtes comme un enfant. Et d'ailleurs, vos enfants ne vous ont jamais empêché, même quand ils étaient petits, de pouvoir continuer à composer. Comme si la musique était une sorte de bain d'enfance continue.
Oui, même si, encore une fois, la musique que je pratique alors, est-elle à l'opposé? Peut-être pas, je dirais plus ça maintenant, mais elle a commencé par être à l'opposé de cette musique qui baignait mon enfance. C'est vrai que c'est différent pour mes enfants, qui eux ont baigné sans doute dans la musique que je pratique pour partie, quoi. Et je ne les ai pas du tout particulièrement formés ou initiés, mais c'est vrai que ça me réjouit incroyablement de constater qu'ils ont une oreille, l'un et l'autre d'ailleurs, une oreille musicale très supérieure à la mienne, je dirais même, parce que ils ont la chance de pouvoir profiter du meilleur côté de cette époque qui rend toutes les musiques disponibles. Et donc, ils font leur chemin et leur, de manière extrêmement libre et avec une incroyable sûreté dans les musiques du passé, les musiques d'aujourd'hui.
Ils sont interprètes ou musiciens, créateurs de leur propre son?
Non, mon fils...
joue avec vous.
Il nous arrive de jouer ensemble, c'était très rare. Très rarement ça nous arrive, mais surtout il produit son propre son, très exactement, très différent du mien.
Vous avez adopté depuis longtemps, et je pense que c'est sincère, Rodolphe Burger, une attitude très modeste. Vous vous prenez pas pour un grand créateur de musique, pourtant vous l'êtes, mais je pense que cette modestie, elle remonte à très longtemps, et notamment à votre perception et appréhension de la musique. Comme si vous vous inscriviez depuis très longtemps dans une lignée très nombreuse de musiciens, un parmi d'autres. Est-ce que c'est vrai ?
Ça explique mon rapport à la reprise. Hein. C'est-à-dire, j'ai besoin de saluer les prédécesseurs, c'est-à-dire ou de restituer, de rendre quelque chose. C'est vrai que ma pratique de la musique est d'abord, c'est d'abord des empreintes, c'est d'abord et ensuite une manière de tenter un retour, de renvoyer quelque chose, de saluer. Et donc c'est pas du tout l'attitude que j'ai pu avoir peut-être dans mon adolescence, qui est un peu cette espèce de d'attitude arrogante rock qui fait table rase ou qui croit faire table rase. Et c'est vrai que ça produit des choses magnifiques parce que ça produit une espèce de chose très fraîche et très très neuve, et cette impertinence est intéressante aussi. Mais voilà, moi c'est vrai que je me sens toujours quand on a formé le groupe Catanoma dans les années 80, on était dans cette situation pour le rock était une chose du passé. Qu'est-ce qu'on fait de ce passé? Comment on peut pas nier qu'il y ait une histoire? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire, sachant que si on commence à faire du rock, le deuxième degré est impossible dans le rock. On peut pas non plus faire du rock didactique, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bon, et voilà, Catanoma, c'était vraiment la recherche de ça, de rendre justice aussi à d'autres musiques qu'on avait écoutées, du côté du jazz, et tout en étant fidèle à cette première émotion et ce bloc de sensations qu'on avait tous éprouvé très jeune, et qui était ce feeling rock fondamental auquel on cherchait à donner une suite.
Vous êtes dans la pratique de la musique, mais vous pensez la musique, et ce de manière indissolublement liée. Et c'est pour ça que votre musique est sans arrêt évolutive, changeante. Vous avez cité ce mot de reprise. Avant vous, il y avait du son. Après vous, il y aura du son. Et ça, on a l'impression, à chaque fois qu'on écoute vos nouveaux albums, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, mais que ça s'inscrit sous le registre justement de cette reprise. Et c'est peut-être cette reprise-là qui est au cœur de cette répétition, qui fait l'intérêt de, entre guillemets, nouvelle musique, nouvelle entre guillemets. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez fait des études de philosophie, je crois que vous lisez encore beaucoup de philosophie, vous avez eu la chance d'avoir comme professeur Jacques Derrida, je vous propose de l'écouter, et notamment dans ce moment où il va raconter sa rencontre avec quelqu'un que nous vénérons et que vous vénérez plus particulièrement, vous, parce que vous le connaissez très bien, et vous avez beaucoup travaillé sur son registre musical, je veux parler d'Ornette Coleman. Jacques Derrida va évoquer sa rencontre avec Ornette Coleman, c'est une archive INA du 17 décembre 2001.
L'improvisation ne se fait pas sans règles. Et donc, dans l'expérience que j'ai partagée avec lui, à sa demande, à son invitation, j'avais préparé un texte, étant entendu que lui improviserait alors que je dirais ce texte sur la scène. Ce qui s'est passé, mais nous avons d'abord répété. Répété sans répéter. Nous avons fait quelques essais où il y avait à la fois de l'improvisation et en même temps de la répétition. Et ce que j'ai essayé de dire à la fois dans le texte que j'ai lu à ce moment-là et dans l'entretien entre nous, c'est que dans l'improvisation, il y a, et surtout dans le cas du jazz, il y a des règles de la répétition et de l'événement. Et qu'il faut que l'œuvre, justement, l'œuvre improvisée, ait une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient.
Alors, commentaire de l'étudiant.
C'est une une compréhension très juste de en effet de ce que c'est que l'improvisation.
Derrida n'était pas très musicien, pas très rock non plus.
Lui, c'était
fou de foot, oui, mais pas tellement de rock.
Pas du tout. Et donc j'étais très très surpris parce que le jour où avec son fils Pierre, un dimanche, les dimanches pour moi inoubliables, où j'ai pu partager le déjeuner dominical, en arrivant, j'entends Jacques Derrida. Enfin, j'entends dans le salon de Jacques. Ornette Coleman. Il était là en train de fumer la pipe et d'écouter Ornette Coleman. Alors, Pierre, t'es le premier stupéfait, quoi. Et en fait, il préparait la rencontre avec Ornette, qu'il connaissait absolument pas. D'ailleurs, Pierre, il se trouve que j'avais publié un petit texte sur Ornette dans une revue que Pierre dirigeait, qui s'appelait Détails. Et donc voilà, il avait entre autres lu ça pour, comme ça, un peu nourrir sa rencontre. Bon, ce qui est très beau aussi, c'est qu'il ne mentionne pas du tout à quel point l'expérience a été cuisante pour lui. Quand ce moment d'improvisation a été terrible parce qu'il a été très très mal reçu par le public. Le public l'a hué.
Parce qu'ils attendaient Ornette Coleman en train de jouer.
Et
qu'ils n'en voulaient pas de la logorée d'un philosophe.
Et ils ne savaient même pas qui c'était. Et surtout, Ornette ne l'a pas défendu à ce moment-là. Parce que Ornette avait l'habitude, au fond, dans les années 70, de se faire huer, etc. Donc, que le public aime ou n'aime pas, lui, ça lui était tout à fait indifférent. Et pour Jacques Derrida, c'était une expérience quand même assez, assez difficile. Et donc ça, il ne le mentionne pas. Mais ce qu'il dit de l'improvisation est très juste. Et spécialement, ça renvoie à cette fameuse théorie de l'improvisation qu'a développée Ornette Coleman. Quand il dit, par exemple, qu'il attend d'un musicien qu'il joue une phrase comme si elle avait été écrite pour lui à l'instant. Comme si elle avait été écrite pour lui. Et il attend de lui qu'il l'invente. Mais qu'il l'invente comme quelque chose qui pourrait avoir été écrit pour lui. Ça, c'est très déridien comme idée.
Qu'avez-vous retenu de cette pratique philosophique et de cette initiation déridienne de la philosophie? Parce qu'après, vous avez été enseignant de philosophie et manifestement, vous avez laissé des traces parce que vous étiez un enseignant passionné et que vous croyez à la vertu contagieuse de la philosophie.
J'ai enseigné la philo par passion et par désir, quoi. C'est-à-dire, je pense que quand on a étudié la philo, on a envie de la transmettre. On a envie de s'essayer à l'enseignement. Mais comme une expérience, pas du tout comme un métier. J'ai jamais pensé devenir professeur. Ça, non. Donc, c'est plutôt, j'ai vécu comme une expérience. C'est une expérience finalement aussi étrange, aussi spéciale que celle d'être au cœur. Et comme je faisais les deux en même temps, donc j'étais dans une double étrangeté. Socialement, en tout cas. C'était quand même très bizarre, évidemment. Et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été compris. Quelque chose qui nous a même peut-être desservi. Avec mon groupe Catonoma, je me repens parfois d'avoir confessé que j'avais fait de la philo. Parce que ça m'a valu de la part d'un certain nombre de journalistes. Cette chose dont, à l'époque en tout cas, voilà, ça se faisait vraiment pas, quoi. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que les temps sont un peu différents de ce point de vue. Je vois bien que dans le chemin de quelqu'un que j'admire beaucoup, Bertrand Belin, ça n'a rien à voir avec la philo, mais quand même, il est pétri de littérature. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est autant nourri de littérature que de musique. Et qui écrit d'ailleurs jusqu'à en venir à publier par P.O.L. Ouais, c'est extraordinaire comme chemin. J'ai pas l'impression qu'on lui le reproche. Donc ça, c'est bien. Mais à l'époque, c'était Catonoma, voilà, c'était le groupe Intello, ça se faisait pas.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Rodolphe Burger, Sam Cooke, Lost and Looking.
I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. I'm lost and I'm looking for my baby. Lord knows my baby
ain't around. So I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and a searching for my baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone, calling for you. Come home, come home. I'm lost and I'm calling for my baby. Baby, won't you please come home? I'm lost and I'm calling for my baby.
Merci pour ce choix, Rodolphe. Et pourquoi ?
En fait, je pense que j'ai choisi ce morceau parce que j'ai un souvenir radio, justement. Je me souviens absolument pas de quelle émission, mais j'ai entendu à la radio un morceau de Skip James que je connaissais, mais je l'ai entendu à la radio et un morceau très très pur comme celui-là, très simple, très minimal. Et je me souviens de l'émotion que ça avait procuré. Et je me dis que ce morceau aussi. Peut-être si on l'entend par hasard dans sa voiture là, ça fait quelque chose quoi. Et là, c'est une merveille quoi. C'est la voix soul absolue. Je tente une reprise de ce morceau dans mon prochain album avec Sarah Murcia, contrebassiste. Et là, je m'aventure sur un terrain vraiment dangereux quoi. Enfin dangereux, disons. J'ai l'impression de toucher à quelque chose de quasiment sacré quoi. Enfin, il y a là, on parlait du son. Enfin là. C'est au-delà d'une virtuosité ou de quelque chose qui pourrait s'analyser en termes strictement comme ça techniques. C'est vraiment c'est la voix de l'âme quoi, indiscutablement. C'est le son de l'âme plus exactement.
Alors vous êtes un musicien, Rodolphe Burger, qui depuis très longtemps introduisait de la philosophie, des sons à l'intérieur de votre répertoire. Vous parliez tout à l'heure de l'époque où c'était pas bien vu au moment de Katonoma d'être un rocker philosophe. Et la voix vous a toujours totalement passionné. Et vous avez écrit des textes sur la voix. Qu'est-ce qu'une voix ? Peut-on faire le portrait d'une voix ? Moi, je vais vous proposer peut-être un exercice un peu douloureux, et je m'en excuse à l'avance. Mais comme vous avez écrit un texte magnifique sur la voix de ce philosophe qui compte tellement pour nous, je vous propose de le réécouter. Nous écoutons Philippe Lacoulabarthe qui va parler de sa propre voix. C'était le 14 janvier 1979.
Sans fausse coquetterie, sans fausse modestie, c'est une voix, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, que je ne supporte pas d'entendre de l'extérieur. Quelquefois même pour des raisons très profondes et qui tiennent au passage de la voix d'autrui dans votre propre voix. Je n'aime pas non plus l'entendre de l'intérieur. Je reconnais simplement quelque chose, c'est que elle est hachée, distribuée, scandée, selon un certain rythme, et que, comme toute voix, j'imagine qu'elle est révélatrice.
De quoi ?
D'une certaine frappe, d'une certaine empreinte, d'un certain type dont je suis persuadé que nous sommes marqués, et qui, outre nos gestes, nos attitudes, sans doute notre manière de penser, mais aussi bien notre manière de nous déplacer, de saisir les choses, de fumer une cigarette, etc., impose certains traits à notre voix. J'ai l'impression ou le soupçon que la voix est ce qui révèle le plus d'un sujet, si tant est qu'un sujet soit révélable.
Nous venons d'entendre la voix de Philippe Lacoulabarthe, c'était au micro de Claude Royer-Journoux, c'était en 79. Philippe Lacoulabarthe a disparu, c'est une des grandes voix philosophiques du XXe siècle. Il laisse une œuvre absolument considérable, un peu trop oubliée aujourd'hui. Vous avez eu la chance de le connaître, de le lire, de travailler avec lui, Rodolphe Burger. Et dans cet entretien radiophonique, il nous convainc presque que finalement, vous avez parlé d'âme tout à l'heure, que la voix, elle serait en avance sur le visage, et l'intériorité de l'âme, ça serait la voix, selon vous, Rodolphe Burger?
Ah non, mais absolument, je suis extrêmement touché d'entendre la voix de Philippe, qui d'ailleurs, il décrit très bien sa propre voix.
Comme s'il en avait plusieurs, d'ailleurs.
Ouais. Et moi, je tiens à dire au passage que je considère vraiment Philippe Lacoulabarthe comme celui qui est allé le plus loin dans une pensée de la musique qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec la musicologie et l'histoire de la musique. C'est vraiment dans une ontologie du musical. Et donc, enfin, il a commenté cette formule de Hölderlin, tout est rythme, d'une manière extraordinaire dans des textes qui, certaines fois, paraissent avoir un autre objet. L'écho du sujet, par exemple, qui est un très grand texte qui concerne la psychanalyse, mais en fait, il s'agit de quelque chose qui est, en effet, qui est archi-musical, qui est, vous le dites, avant le visage, il y a la voix, c'est exactement. Avant la voix, il y a le rythme, dit-il dans ce passage aussi, c'est-à-dire il y a cette frappe-là, ces traits. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de le connaître et de le connaître aussi, de connaître ses goûts musicaux. C'est quelqu'un qui écoutait énormément de musique, malheureusement, a trop peu parlé, je trouve, des musiques qu'il écoutait. Il a parlé de Schoenberg, mais il a très peu parlé de ces musiques qu'il adorait, en particulier un certain jazz, West Coast et tout ça. On avait une passion commune pour James Lodelmaire, musicien qui a beaucoup travaillé avec Ornette Coleman. Et il y a une phrase sublime dans un des livres de Philippe, qui est tout à fait crypté, mais où il dit « La prosodie, c'est auprès de l'homme qui a le sang dans son nom qu'il fallait l'entendre à Auckland. » C'est parce qu'il était allé, il a écrit ça aux États-Unis, et il était allé la veille à un concert de James Blood Ulmer, et qu'il considérait comme un maître de la prosodie. C'est-à-dire, et parce qu'il y a dans le phrasé guitaristique de Blood Ulmer une manière une répétitive de jouer, une frappe, qui est tout à fait, alors, sa voix, au fond. Donc on pourrait trouver d'autres équivalents, pas forcément musicaux. Je sais que, par exemple, j'aime beaucoup Belin, il parle de la danse. Il dit sa danse en parlant de quelqu'un. Il dit j'aime bien sa danse. Sa danse, c'est la même chose, c'est la manière de fumer une cigarette. C'est une allure. Et c'est le trait, quoi. C'est le trait singulier, le plus singulier. Et c'est vrai qu'avec la voix, on accède à ça. On a l'impression d'accéder à ça. Et c'est vrai que ça me fascine, les voix, pour ça. Et que j'aime faire entendre, quelquefois, les voix à l'intérieur même de ma musique. Il y a la voix de Deleuze, en effet, mais il y en a bien d'autres. Quelquefois, c'est mon voisin. Avec Cadio, on partage cette passion grâce à l'échantillonnage, à la pratique du sampler, du sampling, on peut comme des espèces de magiciens manipuler presque des âmes au fond.
Vous êtes des glaneurs de sons et d'âmes grâce aux voix.
Oui.
Alors vous parlez d'Olivier Cadio. Figurez-vous qu'on lui a demandé ce qu'il pensait de vous. On sait que vous travaillez ensemble depuis très longtemps, mais travailler n'est peut-être pas le terme exact parce que j'ai l'impression qu'il s'agit plus de partage, de communauté de sensibilité. Écoutez ce que dit le grand poète Olivier Cadio de vous.
C'est pas simple de résumer une amitié pour moi si considérable. Alors je me disais peut-être on peut approcher tout ça justement en s'approchant un peu plus près. Je me dis que finalement la collaboration que j'ai avec Rodolphe depuis très longtemps, ça me permet d'abord d'être plus près de la guitare électrique. D'abord, je me dis que ce que je crois qui me touche le plus, comme ça, spontanément, c'est de m'approcher très près du son. Et donc, alors on a trouvé un subterfuge comme ça. Je monte sur scène pour envoyer des sons étranges avec un petit sampleur, comme si j'étais un bébé, enfin sans être vraiment un musicien. Et du coup, ça me permet d'être très très près, alors que je crois que tout ça est une manœuvre pour m'approcher de la guitare. Enfin, on pourrait dire aussi que c'est pas nécessairement sur scène qu'on entend mieux la guitare, mais enfin, on est plus près des doigts aussi, et des pieds, et des jambes, et du corps qui joue, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, puis alors je suis aussi plus près, grâce à lui, de la console, enfin du studio, puisqu'il fait quelque chose d'étonnant. Enfin, il me laisse venir, alors que, encore une fois, je suis pas musicien, très près de la composition des guises, surtout également des disques qu'on fait ensemble. Plus près, grâce à lui, enfin, je suis très près de sa tête aussi, enfin, je crois, si l'on peut dire, enfin, de ce qu'il pense et de ce qu'il fait, ce qu'il agite, son rapport au texte, son rapport à la philosophie, son rapport à... Voilà, enfin, de manière extrêmement joyeuse, mais enfin, quand même, j'ai l'impression de partager aussi ça, cette dimension. Et puis, je suis plus près aussi, grâce à lui, de tous ces liens, parce que c'est quelqu'un qui arrive, évidemment, de manière assez magique à réunir des, aussi bien, je sais pas, musiciens ouzbeks et chanteuses israéliennes. Enfin, il fait pas des pots pourris, mais il construit à chaque fois patiemment un nouveau type d'écoute, un nouveau type de rapport. Et ça me permet de m'en approcher aussi. Donc je m'approche aussi avec lui de plein de lieux, de plein de choses. Enfin voilà, il voulait me faire dormir dans le lit de Rousseau bientôt. Là, c'est des propositions comme ça, ça se refuse pas. Voilà. Alors peut-être encore un mot, disons que finalement peut-être ce qui fait que ça tient, si je puis dire, enfin notre travail se poursuit et notre amitié, c'est que pour nous, enfin peut-être que pour moi, en tout cas, la musique et le texte, ça n'a pas grand-chose à faire ensemble a priori, même si on n'arrête pas de nous dire tout en le contraire, que c'est merveilleux, toutes ces choses ensemble. Voilà, il y a une certaine prudence et une certaine opiniâtreté à régler, à voir et à recommencer à zéro à chaque fois. Voilà, ça permet de continuer et de s'amuser énormément.
Réaction, Rodolphe ? Oui, vous êtes des prudents, hein, vous prenez pas de posture.
Oui, oui, on résiste aussi à un certain nombre de voilà, par exemple, l'idée un peu facile que voilà, enfin, poésie, musique, tout ça, ça. On est des un peu des
durs à cuire.
Ouais, il y a quelque chose de des récalcitrants. Et du coup voilà,
pas à la mode délibérément.
Oui, ça c'est sûr. Et créateur de mode du coup, hein, à l'occasion, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien j'ai l'impression de mode. On a été à certains moments des pionniers de quelque chose, je pense. En faisant ces, mais nous-mêmes, on était surpris nous-mêmes. Hein. Enfin, le premier disque qu'on a fait ensemble, autour des Welches, là, qui étaient mes voisins, quoi, dans cette vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, une peuplade qui parlait une langue bizarre. Tu vois. Et on est partis tous les deux en expédition, on a fait un disque avec ça, et ça est d'une manière complètement, pour nous, surprenante. C'est-à-dire, où on était côte à côte, plus du tout dans une distribution des tâches, musicien, écrivain, on a vraiment tout fait ensemble. Et nos disques, à chaque fois, maintenant, on les fait comme ça. Et c'est vraiment extrêmement réjouissant, parce que ça veut dire aussi partager du temps. Et partager du temps avec Olivier, c'est juste le bonheur, quoi. Vraiment, on a vraiment cette chance d'être à la fois des amis, et puis je pense alors, est-ce que le mot travail est juste, je sais pas. Enfin, ce qu'on fabrique ensemble, je pense qu'on s'aide l'un l'autre beaucoup, oui. Y compris dans nos trucs à nous, quoi. On se les montre, on échange beaucoup.
En tout cas, vous êtes tout seul dans ce studio et vous êtes venu avec une de vos guitares. On a beaucoup entendu vos paroles et je vous en remercie infiniment. Mais on vous a pas entendu jouer. Est-ce que vous accepteriez?
Comment vous refusez quelque chose?
Ah, j'en sais rien, mais allez, il n'y en a qu'une hein, aujourd'hui dans le studio de guitare.
Alors là, je vais essayer d'esquisser un peu quelque chose qui va être un morceau de mon prochain album. Donc. Et c'est lié à Olivier Cadio, en fait, parce que il a proposé récemment cette nouvelle traduction magnifique de La Nuit des Rois de Shakespeare. Donc j'ai relu grâce à lui, et de manière, c'est merveilleux ces traductions, parce que c'est vraiment comme si c'était tout neuf. C'était le cas pour Cantique des Cantiques, c'est le cas pour Shakespeare, et j'ai eu envie de tenter quelque chose à partir du célèbre ouverture de La Nuit des Rois, où il s'agit de musique justement. C'est la musique qui nourrit l'amour, alors musique, donnez-m'en trop, jusqu'à plus soif.
que l'appétit lui-même en tombe malade et en meurt. Oh, cette montée, ah, cette chute fatale. Oh, esprit de l'amour. Comme tu es vif et cru. If music be the food of love, now play on. Give me excess of it. The appetite will sicken and so die. Oh, that strain again. The dying for. Oh, spirit of love. How quick and fresh, although. It came to my ear. Sweet sound. It's not so sweet as it was before.
Alors, vous venez d'improviser à partir de La Nuit des Rois de Shakespeare. On a parlé de l'esprit des lieux. Vous avez évoqué tout au long de cette émission à quel point les paysages de votre enfance en Alsace, et puis je sais que vous faites des festivals aussi dans des îles au bout du monde. Bref, j'ai l'impression que vous croyez beaucoup à l'esprit des lieux. Et là, tout à l'heure, Olivier Cadio a parlé du lit de Jean-Jacques Rousseau. Qu'allez-vous faire dans le lit de Jean-Jacques Rousseau ?
Donc j'ai la grande chance qu'on me propose, figurez-vous, ça va être à la fin du mois de mai, une résidence, comme on dit, dans la maison de Rousseau, enfin une des maisons de Rousseau, là, la célèbre maison Les Charmettes à Chambéry, qui est, que j'ai visité récemment, je ne la connaissais pas. Alors c'est assez drôle parce qu'on m'a donné une carte blanche il y a quelque temps à Ermenonville, et donc là je me suis trouvé à essayer d'inventer quelque chose dans un lieu qui est l'endroit où Rousseau a passé ces dernières semaines. Et là, c'est le contraire, c'est le début. C'est une matrice, véritablement. C'est là qu'il a... Il a été à la fois initié sexuellement, sentimentalement. Il a connu l'idylle avec cette femme mariée de Chambéry. Enfin, cette histoire extraordinaire. Et ça, c'était leur cachette, quoi. Leur maison de vacances qui est devenue le lieu même de... À la fois de leur idylle et aussi de la formation de Rousseau. C'était un autodidacte, et c'est là qu'il a lu tous les livres qui ont formé sa pensée. C'est très fascinant d'aller voir les registres de la bibliothèque de Chambéry. Quel livre Rousseau a emprunté ? Et quand Rousseau parle du bonheur, l'expérience du bonheur, il en parle toujours comme d'une chose perdue, mais qui a eu lieu là, aux Charmettes. Donc on me donne les Charmettes pendant 8 jours, y compris la chambre de Rousseau. Donc c'est pour ça que je proposais à Olivier, qui m'a toujours dit qu'il était un lointain descendant de Rousseau. Alors voilà, il a droit, je pense, au lit de Rousseau. Et on va y faire quelque chose que... Alors je peux même pas trop encore en parler ou le décrire, parce que c'est... Ça va être... j'appelle ça des concerts augmentés, quoi. C'est un concert où j'ai essayé aussi d'installer dans cet endroit... peut-être même des vidéos, j'ai l'intention de filmer des amis. Le sujet étant non pas Rousseau, mais Lenz, le Lenz de Büchner.
Ben merci infiniment, Rodolphe Burger. On peut peut-être espérer vos confessions après ce séjour volontaire chez Jean-Jacques. En tout cas, on l'espère. Merci infiniment. On va se quitter avec Arthur H. Lui aussi, il n'est pas tellement loin de vous. Hein, vous avez des enfants ou des compagneros plus jeunes. Il, elle.
Sans Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quelles sont ses cinq pouces? Il est un très belle femme par ses petites secousses. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique est précieux. Dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que un. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le
à Rodolphe Burger. Je rappelle que dans le cadre du Festival du cinéma du réel qui se tient du 15 au 24 mars en ce moment même à Paris au Centre Pompidou, vous pourrez découvrir le nouveau film de Patrick Mario Bernard consacré à Rodolphe Burger et intitulé Good, et vous pourrez entendre Rodolphe Burger et voir le film qui lui est consacré le 18 mars. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la technique ce soir. Merci à Antoine Joubert, à Anne-Sophie Dazard et à Elodie Royer, ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.